Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Donc je ne sais pas si en mettant justement une femme à la place d'un homme, si on va régler notre problème. Hein. Puisque la femme est l'égale de l'homme. Donc, si vous voulez, c'est remplacer A par A. Et donc, il n'y a pas de changement.
Nous sommes en août 2011. Les duettistes Omar et Fred s'essayent pour le site labourseetlavie.com à l'humour sur le thème de la parité dans les conseils d'administration. Quelques mois plus tôt, la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance était adoptée au Parlement. Elle est connue sous le nom de loi Copé-Zimmermann et prévoyait la mise en place de quotas de femmes. 10 ans plus tard, qu'en reste-t-il ? Est-ce la fin des années sandwich prédit par le philosophe Jean Salustre, alias Fred ?
Les années sandwich, oui, on mange, on grignote du sandwich. Parce que la seule femme qui est là dans le conseil d'administration, c'est une secrétaire qui tient les dossiers, qui à la rigueur a amené un café et tout, et il mange très vite. Alors que si vous mettez cinq femmes, eh bien, je peux vous dire qu'au fourneau, vous avez un pot-au-feu du diable, ou bien un bœuf bourguignon excellent. Les cinq à s'occuper de ça pour le repas, et du coup, les affaires seront meilleures à la suite.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va s'intéresser à cette loi qui a changé la face des conseils d'administration, mais pas forcément encore la place des femmes dans l'entreprise.
Pierre, bonjour.
Bonjour.
Cette semaine, la loi ayant pour but de féminiser les conseils d'administration des entreprises de plus de 250 salariés en imposant un quota minimum de 40% fête ces 10 ans. Et alors, 10 ans plus tard, le bilan est positif.
Le bilan est positif. C'est le constat de BFM TV, mais aussi du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. La loi Copé-Zimmermann a permis de franchir une étape décisive dans le combat pour l'égalité femmes-hommes et a fait sauter des verrous culturels et idéologiques. Grâce à cette loi, la France est sur la première place européenne en matière de féminisation des conseils d'administration de ces grandes entreprises. C'est félicité le ministère. Une première étape a donc été franchie pour une plus grande équité entre les hommes et les femmes dans le monde de l'entreprise, même s'il reste du chemin à accomplir. J'ai retrouvé sur Internet une interview réalisée il y a 10 ans par Jean-François Copé, député et secrétaire général de l'UMP. Il répondait au site Au Féminin et expliquait ce qui avait motivé son engagement en faveur de cette loi.
Beaucoup de ces femmes n'ont pas la possibilité d'avancer aussi vite que les hommes dans leur carrière à compétences égales. Il y a une espèce de plafond de verre sur la tête. Et j'ai pensé que faire du conseil d'administration le lieu premier dans lequel des femmes qui jusqu'à présent n'imaginaient même pas de pouvoir être se retrouvent par l'obligation légale, c'était une manière pour elles de travailler au sein des conseils la question de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, qui est un scandale total. Et puis deuxièmement, de permettre à des jeunes femmes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, par l'expérience qu'elles ont, beaucoup d'entre elles ont travaillé à l'étranger, ont travaillé en entreprise, d'apporter leur expérience dans ces conseils.
À la tête et non plus à la racine.
Instaurer des quotas de femmes dans les conseils d'administration pour réduire l'inégalité de traitement salarial entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, c'était l'idée sous-jacente de la loi Copé-Zimmermann. Qu'en est-il 10 ans après ? Pour faire le point sur ce sujet, j'ai appelé Laurence Boisseau, spécialiste aux Échos des questions de gouvernance. Je lui ai d'abord demandé pourquoi la France avait-elle eu besoin de mettre en place des quotas de femmes dans les conseils d'administration ?
Parce que la place accordée aux femmes dans les instances dirigeantes des entreprises ne correspondait pas du tout au rôle qu'elles occupaient alors dans l'économie. En 2009, par exemple, dans les effectifs des entreprises du CAC 40, elles représentaient 35%. Dans l'encadrement, ce chiffre tombait à 26% et dans les conseils d'administration, à 8,5%. Il y avait même 58% des sociétés du CAC 40 qui ne comportaient aucune femme dans les conseils. Et surtout, ces chiffres ne progressaient pas ou très peu. Alors, il existait bien quelques cas particuliers de réussite, Laurence Parisot qui était à la tête du MEDEF, ou encore Nicole Nota qui avait été élue secrétaire générale de la CFDT, Anne Lauvergeon qui était PDG d'Areva, mais les exemples étaient beaucoup trop exceptionnels pour que ce soit satisfaisant. Marie-Jose Zimmermann, qui était députée alors, avec Jean-François Copé, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, ont décidé de s'attaquer à ce problème. Et ils ont ciblé le conseil d'administration. Pourquoi le conseil d'administration ? Parce que c'est le cœur battant de l'entreprise, le point névralgique où les grandes orientations sont prises.
La France était en retard sur les autres grandes nations capitalistes ?
Eh bien non, pas du tout. La France, elle était comme beaucoup d'autres pays où il y avait environ 10% de femmes dans les conseils d'administration. C'était le cas en Allemagne, c'était le cas aux Pays-Bas, c'était le cas au Royaume-Uni. Dans les pays d'Europe du Nord, à l'époque, c'était un peu mieux, en Suède et en Finlande. Surtout. Et puis, il y avait un pays qui se distinguait des autres, c'était la Norvège, où les femmes occupaient 41% des sièges dans les conseils. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait des quotas depuis 2003.
10 ans après, est-ce que cette loi a été efficace ?
Ah oui ! Les femmes occupaient en 2010 12,5% des postes d'administrateurs dans les sociétés du SBF 120, et aujourd'hui, elles occupent 46%. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la parité est atteinte. Il y a plus de 20 sociétés qui comptent au moins 50% de femmes dans les conseils d'administration, plus de 20 sociétés dans le SBF 120. Et il y en a même comme Sodexo, Kering ou Ipsos qui ont un taux de féminisation de 60%. Et de ce fait, aujourd'hui, la France se démarque au niveau international. En Europe, elle occupe la première place du podium, tout juste devant la Norvège.
Pourtant, Laurence, il y a 10 ans, beaucoup doutaient de l'efficacité de cette loi et des quotas.
On ne doutait pas de l'efficacité de cette loi. On ne voulait pas de quotas. C'était toujours les mêmes arguments qui étaient mis en avant. S'il y a un quota, on ne va pas juger la compétence, mais on va juger le genre. On n'allait pas trouver des femmes. Le MEDEF de l'époque n'était pas très allant. Geoffroy Roux de Bézieux l'a reconnu récemment lors d'une table ronde au MEDEF avec Marie-Jose Zimmermann et Jean-François Copé. Jean-François Copé a même cité une réaction d'un responsable patronal emblématique du machisme d'alors. Nous allons avoir un problème de stock et un problème de flux. Bref, c'était une autre époque.
La difficulté, ça a été notamment de trouver des candidates à ces postes ?
Alors oui et non. En fait, il a fallu trouver quand même environ 200 femmes. La tâche a été pas si aisée que ça pour les chasseurs de têtes, mais au final, ils y sont arrivés. Au départ, c'était les usuels suspects comme Patricia Barbizet, Colette Léviner, Véronique Morali, Anne Lauvergeon. Et puis après, ça s'est étendu. Il y avait deux seuils, en fait. Il y avait un premier seuil en 2014 à 20%, et il avait déjà été dépassé en 2014. Et il y a eu donc le deuxième seuil, l'objectif de 40% de femmes en 2017, et il a été atteint sans difficulté. Il avait même été dépassé, d'ailleurs. Donc, au départ, les femmes ont cumulé, et puis après, bon, elles ont toujours un petit peu cumulé, mais le vivier était bien là.
Mais au-delà des conseils d'administration qui ont de l'importance, la question porte aussi aujourd'hui sur la place des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, au-delà des postes de DRH ou de responsables des pratiques RSE qui leur sont souvent dévolues. Un article publié fin 2015 dans le magazine Challenge va faire l'effet d'un électrochoc sur les réseaux sociaux. Il s'agit du palmarès des patrons les plus performants réalisés par Challenge et la société Odo & Compagnie en termes de croissance, de rentabilité ou de performance boursière. Sur 100 lauréats, le classement de l'édition 2016 ne comptait aucune femme. Laurence, il y a toujours un plafond de verre pour les femmes en entreprise ?
Oui, les femmes restent encore aux portes du vrai pouvoir économique. Les comités exécutifs ou les comités de direction sont encore largement composés d'hommes. Les femmes ne représentent que 22% des effectifs des comités exécutifs au sein du SBF 120 et contre 7% en 2009. Donc c'est mieux, mais on n'est encore qu'à 22%. On a une seule femme qui dirige un groupe du CAC 40, c'est Catherine McGregor chez Engie. Et dans le SBF 120, elles sont à peine 10 à la tête d'une entreprise. Mais seules 3 concentrent tous les pouvoirs. Christelle Bories, qui est PDG d'Eramet, Marie Cheval, qui est PDG de Carmilla, et Stéphane Palaise, à la Française des Jeux.
Nous avons la réalité d'une situation qui ne s'améliore pas assez vite. Ni sur l'égalité salariale, ni sur les postes de direction. Vous avez rappelé le chiffre des COMEX. Il ne faut pas que les conseils d'administration soient l'arbre qui cache la forêt. Si on a réussi sur les CA, mais que dans les COMEX, on se retrouve toujours avec 17% de femmes, franchement, on n'a pas avancé.
On vient d'entendre le constat du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, lors d'une audition à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une mission d'information sur l'égalité économique et professionnelle. Avec d'autres mots, Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la diversité et de l'égalité des chances,
avait dressé un constat identique lors de sa conférence de presse de vœux début 2021. Permettez-moi de déplorer que le CAC 40 reste un club de mecs en costume gris. Elle rappelait plus largement que le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes était un combat de longue haleine. Pourtant, Laurence, rien ne montre qu'elles sont moins performantes que les hommes.
Alors non, il y a même des études qui ont été faites et qui montrent que les entreprises qui sont plus féminisées ont de meilleures performances. Il y a des études qui ont été faites notamment par un professeur à l'université de Genève qui s'appelle Michel Ferrari. Et il s'est basé sur les entreprises du CAC 40 sur une période 2002-2006. Et il montre que les entreprises qui ont plus de 35% de femmes dans leur encadrement ont connu en moyenne une croissance de 23,5% de leur chiffre d'affaires. Et les entreprises qui ont moins de 35% de femmes dans leur encadrement, elles ont connu une hausse de leur chiffre d'affaires limitée à 14,5%. On a à peu près des chiffres avec un écart comparable pour la rentabilité avec les entreprises qui sont dont l'encadrement est plus féminisé et les entreprises dont l'encadrement est moins féminisé. Et idem pour la productivité. Donc ça montre bien que les entreprises où il y a plus de femmes sont plus performantes.
Laurence, sur quoi travaille le gouvernement pour y remédier ?
Le gouvernement, il a l'air assez motivé. Il veut aller plus loin. Il veut recourir à des quotas à nouveau, mais cette fois-ci pas dans les conseils d'administration, dans les instances dirigeantes. Alors Bruno Le Maire a été assez clair. Il a dit maintenant, il faut être capable de passer à la vitesse supérieure et donc de rentrer dans une logique plus ambitieuse qui passe par les quotas. Ma conviction est ferme, nous avons besoin de quotas dans les instances dirigeantes pour établir réellement l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, la question, c'est où on va mettre des quotas ? Parce que les comités exécutifs ou les comités de direction, ils n'ont pas d'existence juridique. Donc, ça pose un léger problème. Donc, Bruno Le Maire réfléchit à mettre des quotas dans une catégorie qui s'appelle des cadres dirigeants, qui est une notion définie par le Code du travail. Ou bien, il y a une autre catégorie qui s'appelle les personnes dirigeantes, qui sont celles qui occupent les 10% de postes à plus forte responsabilité. Le ministre souhaite le dépôt d'une proposition de loi à la mi-mars et il a invité les présidents des délégations parlementaires aux droits des femmes à se saisir du sujet et à organiser des débats sur la question des quotas. Il y a un autre organisme proche du gouvernement, le Conseil à l'égalité hommes-femmes, qui a appelé à des quotas de 20% dans 3 ans et de plus de 40% dans 6 ans, au sein des comités de direction cette fois-ci ou des comités exécutifs.
Laurence, vous rappeliez dans une analyse dans Les Échos cette phrase de Françoise Giroud, « La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où à un poste important, on désignera une femme incompétente. » C'était en 1983, dans une interview au Monde. Laurence, on a compris le rôle des quotas pour faire avancer les choses. Il y aura des sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas les quotas ?
Alors, il y a des sanctions dans la loi Copé-Zimmermann. Il y a des sanctions prévues, oui. Les jetons de présence ne sont pas versés aux administrateurs si les 40% de femmes ne sont pas dans les conseils. Et tout administrateur nouvellement nommé après 2017, puisque c'était l'échéance de la loi, voit son élection annulée.
Quelle est la position du patronat sur ce sujet ?
Alors, le patronat, il a beaucoup évolué. Je crois qu'il a compris qu'en fait, il n'échapperait pas aux quotas. Et donc, dès 2020, il a anticipé cette évolution des mentalités en modifiant son code de gouvernement d'entreprise pour imposer des quotas dans les instances de direction. Alors attention, le code ne fixe ni seuil ni échéance, mais il est recommandé à la société de se fixer un objectif en termes de parité dans ses instances de direction. Et il y a un suivi, c'est-à-dire qu'on se fixe un objectif et le conseil d'administration rendra compte de ses avancées et rectifiera le tir si c'est nécessaire. Et cette recommandation du code AFEP-MEDEF s'appliquera aux entreprises donc, qui suivent le code dès les AG 2021.
Et est-ce qu'avec la loi Copé-Zimmermann, la France a fait école en Europe ?
Je ne sais pas si elle a fait vraiment école. Dans le monde aujourd'hui, il y a 18% des sièges d'administrateurs qui sont occupés par des femmes. Alors, il y a des pays qui sont très mauvais élèves, la Corée par exemple, le Japon aussi. Il y a des pays qui sont plus en avance, comme la France, la Norvège, donc qui ont mis des quotas. L'Italie. En Allemagne, en 2015, il y a une loi qui a imposé aux grandes entreprises cotées allemandes au moins 30% de femmes dans les conseils de surveillance. Et l'Allemagne, récemment, a fait voter une loi pour les directoires. Et donc, les directoires qui comprennent plus de 3 membres devront bientôt comprendre au moins une femme. Et enfin, dernier exemple, la Californie, fin 2018, a décidé d'instaurer des quotas de femmes dans les sociétés cotées qui ont leur siège dans cet État.
La loi Copé-Zimmermann est plutôt une réussite, mais on l'a compris, il reste encore du chemin à parcourir pour ouvrir un peu plus la porte des instances de direction aux femmes. C'est aussi sans doute une question d'éducation et cela commence dans les écoles. Le 22 février, les EcoStart ont publié dans le journal des Échos une grande enquête sur les inégalités au travail, en se demandant si le projet d'une société plus égalitaire, grande cause du quinquennat, a du plomb dans l'aile, et en se demandant si l'on pouvait encore croire dans un leadership féminin. Parmi les différents articles du supplément, dont l'un consacré au blues des hommes à l'ère de la discrimination positive, l'un d'eux a attiré mon attention. Il s'agissait d'une table ronde organisée avec plusieurs directrices de grandes écoles. Bonjour Julia Lemarchand.
Bonjour.
Vous êtes chef de service des EcoStart. La question de l'égalité homme-femme intéresse beaucoup les grandes écoles ?
Oui, elle intéresse les grandes écoles et tout le monde finalement, parce que ça n'aura échappé à personne. Le sujet est très présent aujourd'hui dans le débat public. Pour les auditeurs, on peut peut-être rappeler qu'il a été décrété grande cause nationale par le président pour son quinquennat, pour la période du quinquennat. Et peut-être que les écoles, elles ont aussi encore plus tôt compris le rôle clé qu'elles avaient sur ce sujet, parce qu'elles sont vraiment, du fait de leur position, à cheval entre l'école et l'entreprise. Donc ça fait pas mal d'années qu'elles s'y intéressent. La conférence des grandes écoles a un groupe de travail dédié, elle publie un baromètre sur l'égalité femmes-hommes tous les ans. Elle vient de le faire là, son sixième baromètre début février. Bon, alors il y a seulement 77 écoles qui ont répondu sur les 230 concernées. Donc toutes clairement ne montrent pas le même volontarisme sur le sujet, mais je dirais pour terminer qu'elles sont quand même de plus en plus forcées de bouger parce qu'il y a comme une espèce de double pression qui s'exerce sur elles, celle des étudiants d'une part, pour qui ces sujets de mixité, d'égalité sont des attentes fortes, et aussi du côté des entreprises qui cherchent de leur côté à féminiser pour certaines leur vivier de cadres. Je pense en particulier à l'industrie et à la tech.
Vous avez organisé justement une table ronde pour aborder la question de la préparation des futures générations au monde de l'entreprise et au leadership avec plusieurs représentants d'écoles de commerce, d'ingénieurs ou de la tech. Comment est-ce que ces femmes qui sont dirigeantes d'écoles préparent les jeunes femmes à devenir des leaders avec des cours ?
Alors, en effet, nous avons reçu quatre directrices d'école aux Échos, Sophie Vigée de 42, Alice Guillon de Schema, Florence Dufour qui a créé et dirige l'EBI, une école de biologie industrielle qui compte 70% de femmes, et Anne Lalou qui a aussi créé et dirige la Web School Factory, ce qui la concerne. Et donc, aucune de ces directrices n'a mentionné de cours de leadership spécifique pour les étudiantes. Et pour cause, le leadership, ça ne prend pas forcément dans les livres. Leur action, en fait, est beaucoup plus diffuse. D'abord, elles vont produire, et ce déjà depuis quelques années, de la connaissance sur ce sujet de l'égalité, à travers des chaires, par exemple, ou en mettant en place des observatoires. C'est le cas de Schema, qui a son observatoire de la féminisation des entreprises depuis 2007 et qui est très suivi. Elles vont organiser des conférences pour aussi mettre en avant des rôles modèles féminins, des choses un petit peu plus nouvelles comme le mentorat ou des ateliers sur la prise de parole en public, sur la négociation salariale, qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement réservées aux filles. Et puis, ça va être aussi du coaching un peu informel. Tiens, mais au fait, pourquoi toi, tu n'irais pas choisir la finance plutôt que le luxe. Voilà, c'est ce genre de discours qu'elles nous disent aussi sur le terrain que les unes et les autres peuvent prôner auprès de leurs étudiantes, parce que ces fonctions, finalement, qui sont encore majoritairement choisies par des hommes, je pense en particulier à la finance, elles vont déboucher en entreprise souvent vers les postes de direction. Et puis, peut-être qu'elles sont aussi un peu plus ambitieuses d'une certaine manière, puisqu'elles visent quand même à repenser le leadership. Voilà, on en est là en 2021, pour qu'il soit plus inclusif, plus collaboratif, plus empathique, plus éthique. Enfin, tout ça, ça doit se retrouver un petit peu partout dans le cursus et dans la pédagogie, c'est ce qu'elles nous disent beaucoup. Par exemple, à travers la gestion de projets en équipe ou bon, mix, cela va de soi, pour que voilà, les uns et les autres aient des occasions de travailler ensemble, de présenter devant des entreprises un travail commun. Et donc, pour elles, c'est ça la clé pour préparer ces jeunes femmes à devenir des leaders, finalement.
J'en parlais tout à l'heure avec Laurence Boisseau, la loi Copé-Zimmermann a rempli son rôle pour les conseils d'administration. Julia, vous les avez sondés sur la question des quotas, qu'est-ce qu'elles en pensent ?
Alors c'est une question que nous leur avons évidemment posée et qui les a un peu mises mal à l'aise au départ. Les quotas, bien sûr, elles réalisent que ce n'est pas, elles savent, hein, que ce n'est pas la solution idéale, que ça peut jeter un discrédit sur les compétences des femmes. Hein. Cette question, elles le savent, elles, par expérience, n'est pas du tout évident à gérer, en particulier au moment de la prise de fonction. Mais quelque part, elles se rendent à l'évidence, hein, c'est la méthode la plus efficace. Et donc, c'est pour cette raison-là, en particulier, qu'elles s'y montrent favorables. Mais avec un enthousiasme qui n'est pas débordant. Et je me souviens d'une formule de Sophie Vigée, qui est à la tête de 42, qui disait « Les quotas, c'est souvent un gâchis du présent pour un meilleur lendemain. » Donc, ça résume vraiment l'état d'esprit. Bon, bah, il faut y aller, il faut en passer par là. Ça ne va pas être facile pour les femmes qui vont être ces femmes quotas, mais c'est la seule manière de bouger efficacement et rapidement les lignes.
L'enjeu pour ces écoles, je pense notamment dans la tech ou certaines écoles d'ingénieurs, c'est aussi d'attirer des étudiants pour alimenter, là aussi, le vivier de futures dirigeantes. Quelles sont les solutions que ces écoles mettent en place ?
De manière générale, les filières ingénieurs cherchent à communiquer beaucoup auprès des jeunes femmes et font attention à la façon dont elles communiquent pour ne pas reproduire des stéréotypes sexistes qui pourraient rebuter les femmes. Je pense à deux exemples historiques. Hein. La CDFI, qui représente les écoles d'ingénieurs, qui lance cette année sa 10e édition des Ingénieuses. Là encore, c'est une opération de communication sur tout le territoire auprès des étudiantes, des ingénieurs femmes, pour mettre en avant ces femmes, avec l'objectif de susciter des vocations d'ingénieurs chez les jeunes filles, les lycéennes notamment. C'est aussi l'objectif de l'association Elle Bouge, dont vous avez peut-être entendu parler, qui, elle, a 15 ans cette année. Donc, encore une fois, c'est des opérations qui sont menées déjà depuis de nombreuses années, qui sont faites en général avec des entreprises, de l'industrie, de la tech, tous les métiers qui ont du mal à recruter des femmes, à attirer des femmes. Et ça commence à payer, puisque cette année, pour la première fois, on a atteint 33% de femmes en moyenne dans les écoles d'ingénieurs. C'est un taux qui plafonnait quand même depuis pas mal d'années à 28%, donc était sous les 30%. Malgré toutes les opérations, on avait du mal à voir les résultats, donc là, c'est plutôt prometteur. Puis il y a des écoles qui sont aussi plus engagées hein, sur ce sujet. C'est le cas, par exemple, de 42, qui, elle, réserve des places pour les femmes entre le moment de la première sélection et la fameuse épreuve éliminatoire de la piscine, de sorte que les femmes, finalement, soient en plus grand nombre au moment de la sélection finale et se sentent aussi légitimes, en tout cas, pardon, que les garçons dans ce genre d'épreuve. Parce que si elles sont en plus petit nombre, elles vont avoir tendance à se dire « bah oui, en fait, c'est pas pour moi », à se décrédibiliser et donc, finalement, à rater leur épreuve, etc. Donc, il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont mises en place par 42, qui a d'ailleurs fait progresser le nombre de femmes de manière assez impressionnante en un temps record. Ils sont au-dessus de 20, ils étaient à 15% quand Sophie Vigée a pris la présidence.
Vous avez tenu cette table ronde avant la publication du hashtag Sciences Po, hein, les accusations de harcèlement et de violence sexuelle dans les Sciences Po. Mais cette question, alors au-delà de la violence, mais même du sexisme dans les écoles, est mieux prise en compte, surtout lorsque la directrice est une femme ?
Les directrices d'école que nous avons interrogées, en tout cas, ils sont très sensibles. Elles trouvent d'ailleurs rassurant et sain que la parole se libère et disent appliquer une tolérance zéro au moindre incident. Voilà, il y a des actions qui sont menées. Même la directrice de la Web School Factory nous indiquait que si un prof a tenu des propos sexistes, il est renvoyé quasiment sur le champ. Donc vraiment, elles y sont très sensibles et elles montrent à travers leur action, à travers cette politique de tolérance zéro, que voilà, c'est des choses qu'on ne doit pas normaliser, qu'on ne doit pas accepter. Après, le sujet n'est pas très nouveau, en fait. Hein. Il y a eu les écoles de code en 2017, puis les écoles de commerce, maintenant les IEP. En fait, ce sujet du sexisme et du harcèlement est quelque chose voilà, qui existe depuis pas mal d'années. La conférence des grandes écoles nous dit qu'une majorité des écoles ont mis en place des moyens pour lutter contre le harcèlement. Elles disent que 2/3 ont une cellule ou une personne qui est chargée de traiter justement ces situations de comportement sexiste ou de harcèlement sexuel. Alors voilà, c'est 67 écoles qui ont répondu, donc est-ce que ce ne sont pas seulement les écoles qui mènent des actions, qui avaient envie de promouvoir un petit peu le fait que les choses bougeaient? En tout cas, voilà, on sent qu'il y a quand même des choses qui sont réalisées, notamment la formation des personnels à la gestion de ces situations. C'est sûr qu'elle pourrait aller beaucoup plus loin, notamment auprès des associations étudiantes. D'ailleurs, les directrices qui étaient autour de cette table nous disaient qu'elles constataient encore au quotidien de nombreux préjugés sexistes parmi des discussions qu'elles entendaient régulièrement entre les étudiants.
Salut les garçons.
Salut.
Ça va?
Ça va?
Ouais, ça va, Yvon.
Très, très, très mignon, ce petit nœud de cravate. Ouais. C'est une excellente idée, ça.
Merci.
Ouais, c'est mignon. Et ce jean, Fred, on peut dire qu'il te met bien en valeur. Regarde, regarde, Elisabeth. Vivement le printemps et les petites chemises cintrées, les gars. Hey, vous êtes super beaux aujourd'hui. Vous avez rendez-vous avec la direction? J'ai l'impression que vous avez quelque chose à demander.
Ça va, on vous dérange pas trop?
Bah non.
Bientôt, on va nous demander de venir bosser en slip. Ouais.
Mais pourquoi pas? Bah oui, bonne idée. Partez pas.
Vous êtes lourdes, les filles.
Ils sont susceptibles, on peut plus rien dire. Mais revenez. Mais oui.
En France, 8 femmes sur 10 ont déjà été confrontées à des remarques sexistes au travail.
C'était la contribution de France Télévisions à la lutte contre le sexisme au travail, avec la complicité d'Anne-Sophie Lapix, d'Anne-Elisabeth Lemoine, de Sébastien Follin et Frédéric Lopez. Julien, est-ce que les participantes à cette table ronde sensibilisent aussi les futurs cadres qu'elles forment à la problématique du sexisme et du harcèlement qui existent aussi dans les entreprises?
Alors oui, ça peut être des sujets qui sont abordés dans le cadre de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes. De toute manière, c'est un sujet dont les étudiants, sur lesquels ils sont beaucoup plus informés, dont ils ont beaucoup plus conscience. D'ailleurs, ils font remonter aussi plus facilement aux écoles quand un problème survient en entreprise, hein, dans le cadre d'un stage, par exemple, ou d'une alternance. Alors, les directrices avec qui on a discuté nous ont dit avoir des discussions assez franches avec les entreprises dans ce type de circonstances. Et elles nous disent que c'est généralement très vite réglé, que les entreprises sont trop inquiètes finalement des conséquences que ce type d'affaires pourrait avoir pour leur image. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. La preuve, si l'on en croit les témoignages que l'on lit ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Intéressant quand même de noter que le compte Balance ton stage a été conçu en 2020 dans le cadre d'un projet d'école à l'EM Lyon cette fois. Donc en fait, les écoles, elles sont aussi attentives, elles cherchent aussi des solutions pour avoir des occasions de parler de ces sujets-là, de sensibiliser sur ces sujets-là. Elles savent pas toujours comment en faire. On est loin quand même des années où l'omerta primait. Elles comprennent qu'elles n'ont pas intérêt à mettre la poussière sous le tapis, mais pour certaines, ne savent pas forcément comment démarrer, comment s'y prendre, ou sont de plus ou moins bonne volonté sur le sujet, parce qu'elles ont évidemment en ce moment d'autres sujets de priorité.
Oui, notamment trouver du travail hein, pour leurs jeunes diplômés. On en a parlé également dans la story, parce que c'est une cause, là aussi, nationale, hein, d'aider les jeunes diplômés à arriver enfin sur le marché du travail. Pour conclure, est-ce qu'elles ont le sentiment que les choses vont de l'avant?
Alors oui, malgré tout ce qu'on vient de dire, elles sont très optimistes. Beaucoup de choses sont en train de changer et vite. Elles sont impressionnées d'ailleurs par la façon dont tous les sujets sont en train d'évoluer de manière un peu concomitante. Hein, les attentes de la nouvelle génération, femmes comme hommes, hein, qui veulent aussi prendre les hommes, j'entends, qui veulent aussi prendre leur part hein, dans ce mouvement. Je pense notamment dans le cadre familial, hein, en tant que futur père, il va aussi s'investir, que les femmes ne sacrifient plus leur carrière au moment de la maternité. Il y a aussi les entreprises qui prennent conscience de pas mal de choses, les femmes qui s'auto-censurent moins, la parole qui se libère, les études aussi qui commencent à convaincre sur l'efficacité des équipes mixtes en termes de performance, un leadership renouvelé, plus inclusif, tout ça, elles ont vraiment l'impression, et c'est le terme qu'elles ont utilisé, que c'est une tectonique des plaques et qu'elles sont optimistes sur le résultat de ces grands bouleversements. Elles, en tout cas, ont confiance sur le fait que les entreprises, la société, les écoles, les étudiants aillent dans le même sens pour une société plus égalitaire, plus mixte, plus respectueuse des femmes.
Merci Laurence Boisseau, journaliste au service Marché des Échos, et Julia Lemarchand, chef du service Les Éco-Start. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.